Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Les grandes voix d'Europe 1, Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. C'est pas ce que dit François Hollande, s'écrit il y a plusieurs années le journaliste Dominique Souchier sur Europe 1. Et pour tout vous dire, c'était devenu un gimmick dans notre rédaction. C'est pas ce que dit François Hollande. Eh bien, si, cette fois-ci, il le dit haut et fort dans son livre « Affronter chez Stock ». Affronter qui ? Affronter quoi ? Un peu tout le monde. À en voir le catalogue de désingage qu'est ce livre. Macron saute de nénuphar en nénuphar comme une grenouille. Image trouvée pour illustrer ces changements de cap. Jean-Luc Mélenchon, un boulet pour la gauche, ça c'est fait. Zemmour, petit chose, n'est pas Trump qui veut, même en miniature, etc. etc. Si vous êtes friand de dîner costard, ouvrez-vous un Saint-Estèphe et lisez Hollande. Vous allez déguster. Quant au programme, il y en a un. C'est un New Deal à la française, un SMIC à 1900 euros. Là, c'est plus 100 balles, hein, même s'il y a une multitude de chèques ciblés pour compenser une tarification carbone. Qu'est-ce qu'il fait, François Hollande, exactement avec ce livre, Les Grandes Voix ?
Bon. Il prend position.
Alors, Michel Cotta, dans le micro, s'il vous plaît.
Alors, il prend position, au fond, dans la campagne électorale que va déclencher Hidalgo. Il soutient Hidalgo, mais il soutient pauvrement.
C'est la seule avec laquelle il est plutôt tendre.
Oui, oui,
hein, même un peu plus.
Sauf qu'il souligne quand même qu'elle était contre les Jeux Olympiques.
Une
et qu'après, elle en a pris.
Une femme de sang-froid, de détermination et ténacité.
Oui, enfin, il y a quand même quelques petites vacheries, mais bon, qui sont secondaires par rapport à... Non, je pense que ce qu'il veut, c'est quand même compter dans l'élection. Je ne crois plus du tout qu'ils veulent... participer, mais beaucoup de gens le croient encore, comme vous savez, au Parti Socialiste, même au Parti Socialiste, les gens se disent...
Ils le pensent ou ils l'espèrent ?
Je ne suis pas sûre qu'ils l'espèrent, je ne suis pas sûre que personne ne l'espère.
Je suis certaine que personne ne l'espère.
Ah, voilà. Non, mais lui-même, qu'il a quand même tourné la page, mais tournant la page, il veut quand même compter, et compter sur un programme en reprochant forcément à tout le reste, et surtout à Macron, de ne pas avoir de programme. Alors, ce qui est drôle, c'est de voir que pendant des années, on a dit sur Macron, sur Hollande, « Ah, il n'a pas de vision, ça, on ne sait pas où on va, etc. » Et maintenant, c'est lui qui dit sur Macron, il ne sait pas où il va, il saute d'un nénuphar à l'autre. Mm. Preuve que quand on est dans l'opposition, on est quand même plus tranquille que quand on est dans la majorité.
Catherine Ney.
Non, moi je crois qu'il sort un livre aujourd'hui parce que, pour ne pas être oublié, hein, d'abord. Et pour être, il en revient, il est de nouveau une sorte de nouveau premier secrétaire qui attend la suite pour recomposer la gauche quand elle sera sortie... de toutes ces ennuis de la... Voilà. Je crois que ce qui le démangeait depuis longtemps, c'est ce qui correspond au début du livre, c'est en mettre un coin contre Macron, parce qu'il n'a pas digéré d'avoir été trahi par quelqu'un qui lui a menti et dont il n'a pas vu. Donc il était assez naïf, assez aveugle pour ne pas voir ce qu'on lui disait. Attention, il va partir, il est en train de se préparer pour la présidentielle. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu le voir, qui n'a pas compris. Et lorsqu'on l'a mis devant le fait accompli, c'est quelqu'un qui est à la fois déçu d'avoir été trompé par un homme dont il s'était entiché. Il était joyeux. Il a dit un jour, Emmanuel Macron, c'est moi. Comme Flaubert disait, Madame Bovary, c'est moi. Vous voyez, il le défendait. Et là, qu'il se soit moqué de lui, comme il s'est moqué de lui, ça, il ne l'a pas supporté. Et c'est pour ça qu'il l'attaque aujourd'hui, qu'il lui dénie absolument toute capacité de travailler, de gouverner. Et c'est d'abord une vengeance contre Macron. Et cette vengeance est extraordinaire parce que vous voyez, il a parlé, alors qu'on pensait qu'il serait fâché définitivement aux deux journalistes d'AV et L'Homme et qui viennent de faire un livre contre Macron. Il leur a parlé pour leur dire ça. Voilà, tout ce qu'il pensait de mal de Macron, il ne l'a pas digéré. Mais donc, ça, moi, j'ai trouvé extraordinaire qu'il parle à ces gens, à cause desquels, d'ailleurs, il ne s'est pas présenté à la présidentielle.
Est-ce qu'on peut rappeler quand même que c'est la vengeance d'un homme qui a quitté le pouvoir avec 12% ou 13% d'opinion favorable, alors qu'Emmanuel Macron est à 40%?
Oui, on peut rappeler,
je suis d'accord avec ce que vient de dire Catherine totalement. Il a l'âme de l'homme trahi. Et
c'est quand presque on est trahi, du dépit amoureux, vous voyez, c'est
voilà,
une chose.
Exactement, voilà. Quand on est trahi,
d'où Madame Bovary.
Quand on est trahi par un homme ou par une femme, ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux.
Les deux, quelquefois.
On ne met jamais en cause sa propre action. On ne se dit jamais « c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ça ». Oui. On dit « c'est un salaud » ou « c'est autre chose encore, c'est une femme ». Ça, c'est le ressentiment. Et ce livre, Il a deux, à mon avis, deux effectivement ressorts. Le premier, le plus fort, peut-être le plus actif dans le livre, c'est ça. C'est le ressentiment de l'homme qui a été trahi. L'amoureux, l'énamouré, voilà. L'énamouré président de la République de son ministre, de son d'abord secrétaire général adjoint puis ministre, qui se venge d'une certaine manière, effectivement.
Non, mais présenté comme ça, c'est risible,
oui,
Gérard.
Non, mais c'est pas risible, parce que.
Mais pourquoi mais non, c'est non, humain.
C'est pas risible, c'est
tout simplement humain.
C'est
pardonnez-moi, j'ai un autre ressenti.
Il se venge.
Oui, non, mais alors, vous avez le droit d'avoir un autre ressenti.
Oui, oui, notre lecture.
Mais
notre
quand
lecture.
Je vous aurais donné ma deuxième raison, oui. La deuxième raison, je crois, pour l'écriture de ce livre, c'est pas seulement le ressentiment. La deuxième raison, c'est que, à l'encontre de tout ce que probablement pense la grande majorité des Français, l'ancien président de la République pense qu'il a encore une possibilité infime de jouer un rôle.
Un ultime
il
souffle.
Il a un chiffre en tête qu'on voit dans les sondages là, de ces derniers jours. Il y a plus de 60% des électeurs de la gauche. Ça, le peuple de gauche, ça a existé pendant 40 ans. Plus de 60% de ces électeurs ont la nostalgie de l'union de la gauche et d'un candidat commun à gauche. Ils voudraient avoir. Or, il détaille avec complaisance les différents candidats, il donne ses appréciations, il les égratigne.
C'est plus que jamais une guerre de boutique,
lui,
là. Hein,
mais lui, en sous-main, en sous-texte, dit « Et si moi je peux être capable de rassembler tout le monde, si vous me donnez, si effectivement Madame Hidalgo
ce que dit Catherine, c'est-à-dire qu'il se rêve en premier secrétaire.
Voilà, oui. Il se rêve en premier secrétaire qui refait l'union de tout le monde et on dit bah, le mieux placé pour incarner cette union, c'est lui. Alors, après tout.
Moi j'ajoute deux choses. Non. Moi j'ai beaucoup vu Hollande. J'ai beaucoup vu Hollande au moment où justement tout le monde lui disait « il vous trahit » et à moi, il m'a dit « ça c'est pas vrai, je n'y crois pas ». Et au fond, il est d'autant plus violent avec Macron maintenant qu'il a été plus naïf avec lui avant. Mmh. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, je ne crois pas qu'aujourd'hui il pense qu'il puisse se présenter. Il pense que maintenant c'est trop tard, que elle fera, que la maire de Paris fera ce qu'elle pourra, le nombre de voix peut-être un peu plus, mais en attendant, je crois que son désir de se présenter n'est pas pour aujourd'hui. Il avait simplement l'envie de dire voilà le programme social-démocrate que j'aurais dû faire.
Et que j'ai pas fait, mais c'est trop tard.
Voilà. Ah, tu veux dire qu'il se présentera dans 5 ans alors
non. Oui.
Mais non, mais... Philippe, non. Charles Villeneuve.
Oui, moi je crois ça. D'ailleurs, il te donne un programme et il part en tournée électorale dans les librairies plutôt que dans les meetings.
Ah ben, ça se fait comme ça maintenant.
Manifestement. Et son livre est aussi lucide, si tu veux, donc cruel, sur le jeu des autres, qu'il est aveugle ou muet sur celui qui a été le sien.
Mais oui.
Et je trouve que quant à Anne Hidalgo, dans son livre, il lui taille un costume de grande mesure florentine. C'est tout à fait à la Médicis. Il n'en fait pas partie, parce qu'il y a très longtemps, évidemment, que la République de Florence a existé. Mais regardez, par exemple, il pose cette question, tout en lui rendant hommage, en disant que c'est une femme de grande ténacité. Est-elle en position d'aller plus loin et plus haut? Alors qu'il rappelle qu'elle avait promis de se consacrer entièrement à sa mairie. Et il a beau jeu tout de suite après de se tenir ferme sur son identité socialiste. C'est la technique de la dague au coin du couloir des palais florentins.
Il la soutient, comme la corde soutient le pendule.
On est chez les Borgia.
Absolument. Non. Bon, et d'ailleurs, tout à l'heure, je crois que c'est Catherine qui rappelait qu'il est allé se confesser à deux journalistes, Davé et L'Homme, qui en ont tiré un livre, un président ne devrait pas dire ça, qui a largement contribué à sa non-représentation pour un deuxième quinquennat, largement. Et c'est à Pierre Moscovici, qui est reproduit dans un autre livre, le traître et l'être de Davé et L'Homme, le nouveau Davé et L'Homme, où il avoue que Macron l'a trahi avec méthode et décrit la méthode.
D'ailleurs, c'est
une nouvelle pause, chers amis, et on reprend juste après.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Retour des grandes voix avec Michel Cotta, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve et Catherine Ney. On parlait, Catherine, du livre de François Hollande et c'est vous qui aviez la parole, justement.
Oui, pour dire qu'est-ce qu'il cherche dans l'immédiat. Alors d'abord, le fait qu'il dise qu'il est temps de refaire la refondation de la gauche, ça prouve qu'il ne croit pas du tout à l'élection d'Anne Hidalgo. Alors bon, il dit « je la soutiens, c'est elle, très bien ». mais il n'y croit pas. Mais pour l'instant, d'abord, il veut se réhabiliter. Et ce dont il a envie, c'est d'avoir un rôle un peu comme à Nicolas Sarkozy avec son camp. C'est-à-dire, on vient le voir pour le consulter, un soutien, pour pouvoir dire « je l'ai vu ». Je ne sais pas grand sage, mais je l'ai vu, parce que voilà, il y a encore une admiration pour Nicolas Sarkozy qu'il n'y a pas encore pour l'instant pour François Hollande. Ça, c'est, il doit créer ça.
Mais en d'ailleurs, tout cas, il vient au secours de Nicolas Sarkozy. Enfin, en ce qui concerne ses rapports avec la justice.
Ben oui,
est plutôt dans le camp de Nicolas Sarkozy.
Oui, mais vous savez, quand vous avez vous-même créé la société de transparence de la société, plus le parti national financier, qui sont deux armes de destruction massive, au moins de certains juges idéologisés, je pense que, il a lui aussi peut balayer dans sa porte.
Il va prendre des bureaux.
Il a commencé par en souffrir lui-même.
Il va prendre des bureaux rue de Miromesnil. Alors du coup,
il les a rue de Rivoli.
Ah ben, c'est pas très loin.
Et c'est très embêtant d'être rue de Rivoli parce qu'il peut pas garer sa voiture devant son bureau.
Mais devrait appeler Madame Hidalgo pour ça.
Eh bien oui, parce qu'il a donné l'autorisation à Madame Hidalgo d'avoir la conduite, d'avoir le choix de faire ce qu'elle voulait à Paris.
Non, je voudrais l'attaquer sur le dur, parce que là on ne fait que parler de ses intentions qu'on lui prête ou pas. Moi, j'aurais quand même, parce que l'essentiel du bouquin, il y a 300 pages consacrées à une sorte de programme pour le cas où
le fameux nous viendrait.
Et je prends un seul exemple, mais les Français sont quand même intéressés par ça, c'est le nucléaire. Il y a des moments où je me dis, mais je rêve, qui a décidé en France
de fermer Fessenheim.
Alors, vous me direz, c'est Macron qui l'a fermé. Qu'effectivement, ça n'a été fait.
Qui lui-même, sur le sujet, n'est pas clair.
Mais là, on a un chapitre de M. Hollande qui est celui-ci, intitulé, page 153, « Le mensonge de la sortie du nucléaire ». Et ce chapitre est une apologie du nucléaire. Alors, je ne vais pas vous le citer, je vais prendre deux phrases. Il explique qu'on peut faire des recherches sur des centrales sûres dont les déchets seront plus simples à enterrer, etc. Ces recherches existent. Rien ne dit qu'elles aboutiront, mais rien ne dit le contraire. Alors ça, c'est contraire à toute la philosophie dite des écolos. Et puis, il serait irrationnel de se passer à court terme du nucléaire. Et il préconise effectivement une part substantielle de nucléaire dans la production d'électricité, au moins 40%. En 2050, et là on a l'impression, moi je partage ça, je pense qu'il a tout à fait raison, mais simplement j'avais l'impression, il me semblait que les socialistes disaient pas la même chose quand ils étaient au pouvoir.
C'est pas tout à fait vrai. Il a toujours été pour le nucléaire, mais simplement c'est pour des raisons politiques. C'est pour des raisons politiques. Parce qu'il avait besoin des écolos, et donc il a fait ce qu'il fallait pour les écolos. C'est plus facile de ne pas gouverner, d'être dans l'opposition et dire voilà ce qu'il faut faire. Et au moment où on est au gouvernement, effectivement, on ne fait pas toujours ce qu'on peut faire pour des raisons électoralistes.
Et il dit même, pendant cette période transitoire, nous devons éviter l'erreur de l'Allemagne qui a réduit la part du nucléaire. Je croyais que... Je n'avais pas entendu là qu'on avait condamné Merkel.
Il n'a pas condamné Merkel, mais il n'a pas voulu aller au même rythme. Vous êtes une avocate formidable pour lui.
Mais sincèrement, Michel, une chose est... quand tu es chef d'État, de prendre une position, notamment celle qu'il a pu prendre sur le nucléaire, une autre est, lorsque tu es sorti du pouvoir, faire tout d'un coup l'apologie du nucléaire.
Oui, on n'est pas obligé, c'est ce que tu veux dire.
Deux langages fondamentalement différents.
On n'est pas obligé de dire.
Ou alors faire sommer le culpable.
On aurait dû faire comme ça.
Oui, mais il se réfère à François Mitterrand, qui est l'un de ses modèles. Et François Mitterrand disait toujours que le peuple français est un peuple sans mémoire. C'est-à-dire que vous pouvez rester au pouvoir pendant 5 ans, puis après on vous oublie, puis dire n'importe quoi, parce que les Français ont oublié.
C'est pas dire n'importe quoi. Je vous assure que dans le Parti Socialiste, ça a été une vraie rupture, cette histoire de nucléaire. Il y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Et Mitterrand avait tranché pour le nucléaire. Et Hollande, à ce moment-là, avait suivi Mitterrand. Et c'est vrai qu'il n'a pas fait au gouvernement ce qu'il avait dit à l'Élysée, ce qui était sa conviction.
Je pense qu'on sera tous d'accord que dans ce livre, le passage mis en exergue par Gérard est poursuivi aussi sur un véritable programme. Parce qu'il ne parle pas que du nucléaire, il parle des salaires, de la sécurité, de l'État-providence, de la santé, de la justice, de l'Europe. Il a un vrai programme électoral.
Mais tu vois, moi je l'ai lu en diagonale, parce que c'est un programme, c'est vrai, mais qui sera applicable quand? D'abord, il faudrait qu'il soit candidat pour pouvoir en 2027, ça on verra.
Est-ce qu'il le dit vraiment que c'est 2027? Moi, je donne la date.
Non, il donne pas de date. Et moi, je vais te dire, quand je vois un programme, tu vois, à la campagne, je crois que j'ai un rayonnage entier de livres, repenser le socialisme, la social-démocratie, le génie du socialisme, des trucs comme ça. Oui, et moi, quand je vois ça, tu vois...
Sur la droite, il y a aussi...
C'est un Doliprane direct.
C'est un Doliprane, voilà.
On va marquer une pause et on vous redonne la parole juste après.
Ça vaut rien à la revente, hein, ces livres-là.
Bon.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine et Michel Cotta, on parle dans un instant de Zemmour, mais Michel, vous vouliez rajouter un mot sur le pourquoi du comment de ce livre de François Hollande.
Oui, le livre quand même sort exactement le jour, on va deux jours avant, la relance de la campagne de Anne Hidalgo. Mmh. Et je me demande quand même si aujourd'hui. Derrière tout ça, mais si j'ai peut-être assez mauvais esprit, mais je me demande si derrière tout ça, il n'y a pas... Regardez, voilà le programme social-démocrate que je n'ai pas fait quand j'étais au pouvoir, mais que vous, Anne Hidalgo, vous n'avez pas. Parce que pour le moment, Anne Hidalgo n'a pas de programme.
Voilà, si elle a trois mesures, c'est doubler le salaire des enseignants, les 32 heures.
Mmh. 32
heures et sortir du nucléaire.
Mmh. Oui, il lui a démontré dans le bouquin qu'effectivement, il ne fallait pas sortir du nucléaire, Madame Hidalgo. Lisez le bouquin de M. Hollande.
Affronté chez Stock, voilà le bouquin de François Hollande.